Juste pour m'assurer en B, tout est beau.
J'ai pas entendu, Lionel.
Est-ce que tu m'entends?
Ouais, je t'entends faiblement, mais je t'entends.
OK. Donc, moi, je t'entends bien. Donc, c'est ce qui est important. Donc, dans une quinzaine de secondes, les
OK.
autres arrivent.
Dieu te bénisse. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse en ce lundi 28 juin, si ma mémoire est bonne. 28 juin de l'an de grâce 2021. On n'est pas au mois de janvier comme la semaine dernière. 2021, on va prendre aujourd'hui encore une fois une portion de la parole de Dieu, mais on va encore une fois prier avant de l'apprendre et ensuite de ça, on se lance tout de suite dans l'étude de la parole. Seigneur, merci Seigneur pour l'opportunité. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour les bontés que tu répands sur nous, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur du soin que tu prends de chacun d'entre nous, Seigneur, nonobstant nos situations personnelles. Seigneur, ce soir, nous nous apprêtons à prendre ta parole et nous ne voulons pas le faire tout simplement, Seigneur, que de façon tout à fait avec l'intellect, avec la chair, avec l'intelligence, mais nous voulons le faire, Seigneur, sous la conduite, sous la sagesse, sous la direction de ton esprit, ô Dieu. Donc, Seigneur, remplis-nous. Seigneur, je te demande pour moi, je te demande, Seigneur, pour les auditeurs qui vont entendre la parole, ceux qui vont écouter, Seigneur, je veux couvrir certaines portions aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de la sagesse, de l'intelligence et donne à ton peuple, Seigneur, la compréhension, Seigneur, des textes. C'est toi, Seigneur, qui peux m'assister comme assister ton peuple parce que ta parole, Seigneur, est bien plus élevée que l'intellect d'un homme ou bien plus grande, Seigneur, que l'intelligence humaine, ô Dieu. Donc, Seigneur, c'est pour cela que nous prions, demandant ton assistance. Sachant que tu peux faire bien au-delà de ce que nous pensons, demandons, croyons, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu peux tout. Donc, Seigneur, donne-nous ce soir, Seigneur, aie compassion de nous et fais-nous croître à travers ta parole. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, on est rendu à. Je vais vous ramener légèrement et je vais même compléter le sujet. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'était laissé. Paul faisait route vers Jérusalem pour son troisième voyage missionnaire. Donc, Paul veut passer par certains endroits dont il fait et il s'arrête. On était rendu où il s'arrêtait à Milet. Environ à 60 km, un peu moins d'Éphèse. Et Paul envoie chercher les anciens des églises de ces contrées-là, d'Éphèse, et il va leur adresser des exhortations dont on a vu la semaine dernière, du chapitre 20, les versets 17 à 38. Je ne reprends pas toute la lecture, mais comme je veux terminer ce que j'avais ouvert avec vous en fin d'intervention, de la semaine dernière, je vais tout simplement relever quelques points qui vont nous lancer justement pour notre étude d'aujourd'hui. On avait vu, et je n'avais pas eu le temps de les développer tel quel, mais on avait vu que Paul, lors de son discours qu'il va faire aux anciens d'Éphèse, Paul va leur donner en bout de ligne de l'exhortation, des avertissements et aussi un message d'adieu. On voit que le message de Paul aux anciens d'Éphèse est un mélange de ces trois composantes-là, si on peut dire ça de cette façon-là. Les éléments principaux du discours de Paul se trouvent dans les versets 19 à 21, où Paul va citer à partir du verset 19 du chapitre 20 son exemple. Et ici, je ne m'étais pas rendu plus loin qu'il faut, mais je vais m'arrêter un peu ici dans les versets 19 à 21, où Paul dit, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul cite ici, c'est un point d'exhortation ici, le premier point, Paul cite sa propre exemple. Et la question que je soulève ici, pour vous et pour moi, dans cette exhortation-là, Paul va se citer lui-même en exemple. Est-ce que nous, à la fin de notre vie, à la fin de notre parcours, comme Paul fait ici, parce qu'on sait qu'après ça, Paul va se rendre à Césarée, à Jérusalem, va être fait prisonnier, en parenthèse, et son quatrième voyage va aller jusqu'à Rome. C'est un voyage qui va être fait en tant que prisonnier. Donc, Paul, ici, va se citer en exemple la question qu'on doit se poser pour nous-mêmes. Ce n'est pas une question qui a besoin de réponse, sauf nous-mêmes devant Dieu. Est-ce que notre vie parle assez fort pour qu'on pourrait dire à des gens « Suivez mon exemple » ou bien est-ce que notre témoignage est si faible qu'on pourrait dire aux gens « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Et ici, je vous laisse réfléchir un peu à la dynamique que ça peut apporter quand on fait cette réflexion-là de ce que Paul fait, des versets 19 à 21, quand il va dire « Je n'ai pas craint de vous prêcher, c'est avec larmes que je l'ai faite, en toute humilité. » Il cite en fait son propre témoignage, son propre exemple en disant à des anciens, à des pasteurs, à un corps pastoral qui a fait venir des contrées d'Éphèse. Il se cite lui-même en exemple à ces gens-là parce que Paul avait ce témoignage-là dont il pouvait. On ne parle pas de se vanter, mais on parle d'un témoignage qu'il pouvait citer en exemple parce que Paul va dire, d'ailleurs, il va le faire avec les Corinthiens aussi, il va dire, qu'est-ce que je n'ai pas enduré en fait? Il va dire, j'ai été 3 fois lapidé, j'ai été passé un jour et une nuit dans l'abîme, j'ai combattu les bêtes à Éphèse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, fait ça. Il ne dit pas ça pour faire la nomenclature, regardez comment je suis bon, comment je suis résistant, comment je veux servir le Seigneur. Il donne cet exemple-là pour qu'en sa personne, nous trouvions un encouragement ou un exemple humain à suivre. Déjà, des chrétiens m'ont déjà dit à moi, « Oui, mais ça, c'était Jésus, une autre chose. Que oui, mais ça, c'est le Seigneur. On ne peut jamais atteindre. C'est sûr que nous atteindrons la perfection quand Christ est dans la présence de Christ, mais rien qui nous empêche d'y tendre, de l'approcher. Et comme Paul va dire, j'ai traité mon corps durement. J'ai traité mon corps en l'assujettissant. Je l'ai tenu assujetti. Je n'ai pas vécu dans la paresse. Je n'ai pas vécu dans la complaisance. Mais je me suis fait tout pour tous afin d'en gagner quelques-uns. Est-ce qu'on est capable, nous, si on aurait une exhortation à faire à d'autres croyants, est-ce qu'on serait capable, je ne vous dis pas de le faire, là. Ça pourrait passer peut-être pour de l'orgueil, mais est-ce qu'on, en conscience, on peut s'arrêter et se poser la question, est-ce qu'on serait capable de prendre une portion de notre vie, de la citer en exemple, en disant à des croyants, eh bien, faites, regardez en exemple la vie que j'ai menée. Et vous pouvez même faire mieux, mais ce que j'ai mené comme vie chrétienne était tout à fait acceptable devant le Seigneur, et était tout à fait en norme, en phase avec la parole de Dieu. Ça, c'est les versets 19 à 21 où Paul donne sa vie en exemple. Ensuite, les versets 22 à 25, et c'est un peu ce que je vous avais pas donné un peu la semaine dernière, et là, je rentre dans mon sujet plus profondément. Ensuite, Paul, des versets 22 à 25, va leur dire quoi? Si on reprend rapidement, il va dire, maintenant, voici lié par l'Esprit, verset 22, je vais à Jérusalem, ne chassant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Deuxième partie de ce message-là, c'est un message d'adieu, où Paul va dire, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Et on va voir à la fin, on l'a pris, on l'a lu la semaine dernière un peu, je l'avais passé rapidement, où les anciens, les pasteurs d'Éphèse vont avoir beaucoup de peine, vont pleurer du fait que Paul va leur avoir dit « Vous ne me reverrez pas, vous ne verrez plus mon visage parce que je sais qu'il y a des liens, des tribulations qui m'attendent. » Paul, dans la première partie, fait exemple de sa vie. C'est l'exhortation. Je vous ai dit qu'il y avait trois messages là-dedans. Le deuxième ici qui va être donné, c'est un message d'avertissement. Pas d'avertissement, je veux dire d'adieu. Où Paul va dire « Vous ne verrez plus mon visage. » Mais il va citer dans la partie 26, c'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Paul va dire, j'ai fait mon travail. Je vous le déclare. Ça fait partie du message d'adieu. Je suis pur de votre sang. C'est-à-dire, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais dans ce message d'adieu-là, Paul dit, j'ai fait mon travail. Je suis pur de votre sang. Et la dernière partie des versets 26 à 36, comme je vous dis, je le passe un peu vite parce que la semaine dernière, j'en ai brossé tout le cadre, comme je vous avais dit. Et là, maintenant, je fais juste donner les détails finaux avant qu'on passe à la prochaine lecture des versets, à partir du verset 20, du chapitre 21. Paul, pour terminer, va donner de l'avertissement. Des versets 26 à 36 du chapitre 20. Quel type d'avertissement que Paul donne ici? À partir de je vais aller vers le verset 29, où il va dire, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est-à-dire que Paul va leur donner un message d'avertissement, il va leur dire, je sais ce qui va se produire, je sais ce qui va se passer et je vous avertis d'avance pour que vous vous teniez sur vos gardes. Même si on sait que quelque chose va arriver, j'avais une discussion à un moment donné avec le pasteur Florent, je lui parlais un peu de ce que je croyais, je n'ai pas eu une révélation spéciale, de ce que je croyais que la pandémie allait faire, allait amener. J'ai parlé de ça avec le pasteur Florent dans le début de la pandémie et je lui ai dit, c'est pas toute l'Église qui va en sortir indemne. Parce que, à mon avis, ça va faire un certain tri. Qui sait même, comme je vous ai déjà dit à vous, si Dieu ne se servira pas de cet événement-là pour épurer l'Église dans ce que l'Église était avant, dans ce qu'elle va être après. C'est peut-être bien ce qui s'est passé, c'est peut-être ce qui est encore en train de se produire. On est peut-être au milieu où ça chauffe, où les scories vont monter à la surface et vont être nettoyées, vont être enlevées. Dans les versets 26 à 36, dans cet avertissement-là, Paul il dit « Je sais ». Donc, il ne leur dit pas en disant « Je vous avertis pour pas que ça arrive. » Des fois, on sait des choses. On sait que ça va arriver. On avertit des personnes ou les groupes. J'étais avec des bien-aimés à Trois-Rivières. Et j'ai eu certaines conversations avec eux, on m'a dit certaines choses, et j'ai senti dans mon esprit d'aller chercher des informations que je n'ai pas encore partagées avec eux, bien que je leur ai parlé aujourd'hui, du moins à la femme, et que je partagerai avec eux plus tard, face à face. Soyons clairs, même si on voit des choses, même si on sait des choses, quelquefois, ils sont inévitables. Les choses vont arriver. Paul, ici, dans son message d'avertissement, va donner en disant « Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. » Paul avertit un groupe d'anciens qu'il va se passer des choses dans l'Église. Et c'est pour ça qu'au verset 30, 31, il va dire « Veillez donc, vous souvenant durant 3 années que je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec larmes, chacun de vous. » Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Et il va continuer à donner un peu son témoignage en disant, je n'ai désiré ni l'or ni l'argent de personne. Ses mains ont pourvu à mes besoins. Dans son dernier message, ici, la dernière partie de l'avertissement, Paul leur dit ce qui va venir, ce qui va arriver, les situations quelquefois difficiles comme dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai accompagné une personne âgée pour sa vaccination. En même temps, j'ai regardé si je peux le faire. On m'a dit non, attendez votre propre rendez-vous. Mais soyons clairs, j'ai accompagné cette personne-là pour sa vaccination et je regardais le flot de personnes arrivées et ainsi de suite. Ces gens-là veulent conserver leur vie. Et pendant le temps que j'étais assis, je regardais, veulent conserver leur vie physique. C'est correct. Se font vacciner et ainsi de suite. Alors, pour ne pas attraper une maladie qui serait peut-être mortelle, surtout pour des personnes peut-être plus âgées et ainsi de suite. Et j'en conçois, oui, c'est correct. Et je me disais, je regardais tout le monde, on n'a pas le droit de franchir le maître, mais je me disais, et vos âmes, qu'est-ce qui arrive avec vos âmes? Paul, c'est ce qu'il va leur dire ici, veillez donc. Dans ces temps difficiles, dans ces temps incertains dans lesquels nous vivons, veillons donc. Que la parole de Dieu puisse trouver un sol convenable en nous. Veillons donc, exhortons-nous les uns les autres. Et c'est ce que Paul fait ici. Il exhorte ces pasteurs-là, ces anciens-là, ce groupe-là à rester bien éveillé. Et il va terminer, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, avec la prière ou par la prière. Et suivant ça, il va partir. Et là, on est rendu au chapitre 21. J'aimerais couvrir une certaine partie ce soir du chapitre 21. On va lire les versets 1 à 16, une longue lecture, et ensuite de ça, je reviendrai sur certains versets. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, des gens d'Éphèse à Milet. Et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à hors de la ville. Nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémée. Et nous saluâmes les frères et nous passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas. Il nous dit que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous. Ils nous conduisirent chez un nommé Nason de l'île de Chypre, ancien disciple. Ça ne veut pas dire qu'il avait abandonné la foi, ça veut dire qu'il était un disciple de longue date, chez qui nous devions loger. Donc, après les adieux à Milet, des anciens d'Éphèse, Paul et ses compagnons vont faire, somme toute, un assez bon voyage avec quelques arrêts. Avec quelques arrêts où ils vont être avertis à certains endroits par des frères ayant l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas m'arrêter sur la mécanique de cela. Je veux relever des points importants. Comme je vous ai dit, l'étude du livre des Actes, si on le faisait verset par verset, eh bien, on aurait probablement pour des années, mais on tire les grandes lignes. Ici, ce que je veux qu'on regarde, c'est que les gens habités de l'Esprit, remplis de l'Esprit, dans les lieux où Paul s'est arrêté, ont averti Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Ils ont vu, ils ont senti par l'Esprit le danger, sans, si vous voulez, avoir tout le discernement de savoir que la volonté de Dieu allait s'accomplir à travers ça. Et on va le voir plus tard, quand Paul est à Jérusalem, prisonnier, dans la nuit, le Seigneur va lui parler, puis il va dire de ne pas craindre, parce qu'il faut qu'il comparaisse devant César. Il va l'avertir. Pourquoi? L'homme a besoin d'être encouragé. Le frère a besoin. Paul était un humain dans sa chair, a besoin d'être encouragé, parce que les temps qui vont venir vont être difficiles. Il avait déjà vécu des temps difficiles, mais ce qui allait venir allait être très difficile. Et le Seigneur va lui parler. Mais donc, les frères, dans les différents lieux qu'on vient de lire, ils vont traverser la Phénicie, ils vont s'arrêter à Chypre, ils vont aller à Tyr, où la cargaison du bateau va être déchargée, ils vont rester 7 jours. Les disciples, verset 4, les disciples poussés par l'Esprit vont dire à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ils comprennent, ils sentent par l'Esprit, ils savent qu'il y a danger pour Paul. Pourquoi ils n'ont pas toute la révélation? Il peut y avoir plusieurs raisons. Soyons clairs. La révélation de Dieu que vous avez, que j'ai, à travers même la compréhension qu'on a de la parole est parfaite, mais pas nous. Même quand Dieu nous parle à propos de des situations pointues, nous connaissons en partie. La parole de Dieu a dit, on prophétise en partie, on connaît en partie. Si ces choses-là sont partielles, que la compréhension n'est pas parfaite, naturellement, nous n'avons pas généralement les éléments complets. Dieu nous amène à une certaine compréhension et quelquefois, le Seigneur ne nous donnera pas la compréhension parfaite d'une situation parce qu'il y a des choses qui ne nous regardent pas ou il y a des choses que Dieu va dévoiler d'autre part, plus loin sur le chemin, comme on va le voir avec Paul, c'est ce que je veux que vous reteniez, qui va dévoiler plus loin sur le chemin parce que la révélation de Dieu, elle est progressive, je vous dirais de ne pas nous inquiéter outre mesure. J'ai déjà dit une fois à quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais si tu connaîtrais l'heure de ta mort, entre autres, si tu savais quelle journée. Admettons que tu ne sais pas l'heure, tu sais juste la journée. Crois-moi que tu serais dans l'expectative cette journée-là. Donc, Dieu ne nous dit pas toutes choses. Rappelez-vous d'un certain roi, Ézéchias, que Dieu lui a pas dit la journée, mais il avait envoyé un prophète pour lui dire « Prépare ta maison parce que tu vas mourir. » Soyons clairs, et la prière, et les pleurs, et les larmes de cet homme-là, soyons clairs, les disciples ici avaient une certaine compréhension, une certaine révélation, une certaine connaissance via l'Esprit de Dieu. Il savait que Paul courait un danger. Il savait que Paul, à Jérusalem, allait être en danger. Et dans leur réflexion, ils ont dit à Paul, « Monte pas à Jérusalem. » Mais pourtant, le Seigneur va dire à Paul plus loin, « Il faut que tu comparaisses devant César. » Donc, tout ce qui s'est passé à Jérusalem va concourir à la volonté de Dieu. Ces disciples-là, par l'Esprit de Dieu, vont avoir une certaine connaissance, mais comme elle est limitée, ils vont dire à Paul, « Monte pas à Jérusalem. » Pourquoi ces gens-là savaient ça? Ne serait-ce, et je me permets de vous dire ça ici, ne serait-ce que pour la prière. Quand le Seigneur nous dit quelque chose concernant quelqu'un, concernant un groupe, concernant des individus, quelquefois, le Seigneur va nous révéler en partie. Il ne s'agit pas de courir jusqu'aux personnes et dire « Hey, le Seigneur me dit ça. Hey, le Seigneur me dit ça. » Si moi, le Seigneur me dit quelque chose et il ne me dit pas de le dire, ou c'est pas du péché manifeste chez une personne, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, je présume que le Seigneur me le dit pour la prière. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prie. Et je sonde. Et je regarde qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu. Donc, ce n'est pas nécessairement tout ce qu'on apprend de l'Esprit qui doit être divulgué. Ici, les gens ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Paul, il dit, pourquoi me faites-vous de la peine? Je suis prêt non seulement à monter à Jérusalem, mais je suis prêt à mourir à Jérusalem. Soyons clairs, ces croyants-là de Tyr, où Paul a passé une semaine, ont averti Paul, et Paul va aller quand même à Jérusalem. Paul va les quitter, mais avant de quitter, il va prier avec eux sur le rivage. Le voyage, maintenant, a repris. Ils vont arriver à Ptolémée et le lendemain, ils vont arriver à Césarée, chez Philippe, qui était un des diacres de l'endroit, à Césarée. Depuis le temps où Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et ainsi de suite, il s'était écoulé environ maintenant 24 ans. C'était écoulé. Et ça, je vous dirais même depuis le début du ministère de Philippe, l'évangéliste aussi. Ce Philippe-là, qui était évangéliste et aussi, comme je vous ai dit, diacre à Césarée, c'est cet homme-là dont on trouve trace dans Actes des Apôtres. Et ici, je vais répondre peut-être à une question que vous vous posez peut-être, où la parole de Dieu nous dit qu'il loge chez Philippe et quand il loge, il rentre chez Philippe dans le verset 8, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui au verset 8 là, du chapitre 21. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée et est entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Aujourd'hui, on a juste un seul ministère, là, ben, je vous dis ça un peu là, ironiquement, dans les églises, souvent, il y a les pasteurs et les autres sont un peu, c'est un peu la pensée moderne, un peu éclipsée. Mais ici, Paul va loger chez Philippe, qui n'est pas pasteur, qui est évangéliste. Et on nous le cite comme tel, qui était aussi un diacre. Il avait déjà été diacre, cet homme-là. Et c'est pour ça qu'on nous dit c'était l'un des sept qui, si vous tournez dans Actes des Apôtres, chapitre 6, et je vous le paraphrase, là, on ne prendra pas, mais chapitre 6, verset 5, vous vous rappelez quand il y a eu les plaintes où les hellénistes se plaignaient que leur veuve était négligée dans la distribution des biens. Pierre va prendre la parole et il va dire il n'est pas convenable qu'on laisse, je vous paraphrase parce qu'on l'a déjà pris, il dit il n'est pas convenable qu'on laisse la parole et la prière pour servir aux tables. Pas que ça veut dire que le service aux tables n'est rien, ça veut dire que chacun a sa place. Dans le cas de Pierre et des apôtres, il y avait une mission particulière. Il a dit il n'est pas convenable qu'on laisse notre ministère pour faire cela. Il dit choisissez cet homme. Choisissez cet homme de qui on rend un bon témoignage. C'est lui, Philippe, l'un des sept. Il fait partie des 7 diacres de Jérusalem qui ont mis de l'ordre dans la distribution des biens au chapitre 6 de Actes des Apôtres. Et on le retrouve ici, où Dieu l'a amené ailleurs. Il habite à Césarée. Il n'est plus à Jérusalem. Il habite à Césarée. Dieu peut nous changer de place. Il habite à Césarée, puisque Paul loge chez lui. Il y a 4 filles qui habitent avec lui. Ces 4 filles sont prophétesses. Et pourtant, Dieu va déplacer un prophète, Agabus. Va déplacer ce prophète-là, dont on a déjà eu mention aussi dans Actes des Apôtres, par lequel il avait annoncé une famine. Et on voit que Paul est là. Le prophète arrive et il donne une image forte de ce qui va arriver à Paul. On est rendu un peu plus loin dans la révélation. Paul savait qu'il allait arriver quelque chose. Paul va dire « Des liens et des tribulations m'attendent. » Les disciples vont l'avertir. La révélation avance. Agabus va arriver. Agabus va faire une déclaration. Va prendre la ceinture de Paul. Va se lier les pieds et les mains. Il va dire, l'homme à qui appartient cette ceinture-là, ce n'est pas une ceinture comme on porte aujourd'hui, c'est un autre type de ceinture, il pouvait faire le tour, ne vous inquiétez pas. Et il va se lier, puis il va dire, les Juifs vont lier, puis ils vont le livrer aux païens. C'est exactement ce qui va arriver. Non? La prophétie d'Agabus est exacte. Okay? Donc, ce prophète-là, nommé Agabus, descend de Judée. Pourquoi Dieu n'a pas levé une des 4 filles de Philippe l'évangéliste? La parole de Dieu ne nous le dit pas. On peut avoir des pensées, il y a des écoles de pensée sur le sujet, je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais on peut voir que Paul va amener un prophète d'ailleurs pour donner une image forte, va déplacer quelqu'un. Si je prendrais un exemple, ça m'est déjà arrivé à moi, où un homme de Dieu, et ma femme qui est juste dans l'autre pièce ici, va très bien se souvenir, c'était assez marquant un lundi matin, où un pasteur que je connaissais, qui demeurait tout de même à quelques heures de Montréal, a pris sa voiture sur le très très tôt le petit matin, il m'a dit qu'il était en train de prier, et le Seigneur lui a parlé, il a pris sa voiture. Il est venu chez moi et il était rendu peut-être chez moi vers 9h, 9h30, le lundi, dans ce temps-là, je ne travaillais pas le lundi. Et il a sonné et quand je suis rentré, il est venu me livrer un message. Il est venu me dire quelque chose qui est effectivement arrivé. Que ça s'est passé, c'est arrivé un peu comme cet homme-là m'avait dit que les choses arriveraient sans me donner tous les détails. Est-ce que le Seigneur aurait pu le faire avec mon propre pasteur à l'église? J'étais là la veille, le dimanche. Peut-être que par mon propre pasteur, j'aurais dit, ben lui, il me connaît. Il a entendu souvent, il m'a entendu prêcher. Les gens dans l'église me connaissent. Je ne sais pas ce qui m'aurait traversé l'esprit. Mais Dieu connaissant toutes choses. Ah oui, j'ose le dire, même Dieu connaissant mon cœur tortueux aussi. A levé cet homme-là et l'a amené vers moi. Je crois que les 4 filles étaient tout à fait aptes à faire la prophétie. Peut-être qu'eux avaient abondamment entendu parler de Paul, par leur père Philippe, peu importe, c'est Agabus qui vient. C'est Agabus qui vient pour annoncer la chose. Dieu est souverain. Et le verset 15, pour terminer juste cette portion-là, nous dit, « Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. » Donc, à partir de là, Paul va faire ses préparatifs et va loger chez un disciple de longue date. Et regardez bien, dans les versets, je vous fais encore une longue lecture, du chapitre 21, 17 à 36, on va avancer assez aujourd'hui. verset 17. « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. » Une réunion pastorale, une réunion du conseil pastoral. Des gens, des fois, se plaignent et disent « Pourquoi que des choses, pourquoi former un petit cercle, sélect? Pourquoi que l'Église n'est pas partie prenante de tout? » J'ai déjà donné des explications là-dessus. Ce n'est pas nous qui avons choisi le mode de fonctionnement d'une Église, ce n'est pas vous non plus. C'est Dieu qui choisit le mode de fonctionnement. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église. » Et Dieu a mis en place un système qui le regarde lui. Ça ne nous plaît peut-être pas, là, mais Dieu a donné dans une Église un conseil pastoral, ensuite de ça, des anciens, ensuite de ça, des gens pour le service, des diacres, et ainsi de suite. Et Paul va arriver à Jérusalem, et il s'en va où? Il s'en va vers le conseil pastoral. Il s'en va vers le collège pastoral. Il est reçu par eux parce qu'il y a un ordre de fonctionnement. Et regardez bien ce qui se dit dans cette assemblée-là, dans cette réunion-là. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Paul va rendre ses comptes. Comme il a rendu ses comptes à Antioche, si vous vous rappelez bien, quand il arrive à Antioche, il va rendre ses comptes. Un ouvrier, un pasteur, qu'il soit pasteur senior d'une église ou pas, qu'il soit pasteur avec peu d'anciens que l'église soit petite, doit toujours avoir endroit où rendre ses comptes. On dit oui, mais c'est moi et Dieu, et c'est moi et le Seigneur. Le principe que je vous donne là n'est pas que là. On l'a vu à d'autres endroits dans Actes des Apôtres, puis n'oubliez pas que le livre des Actes nous explique le fonctionnement, comment les églises se sont organisées, comment les églises ont fonctionné, comment Dieu a commencé à les bâtir. C'est ce que Actes nous explique. Et on trouve ce modèle-là à quelques reprises dans Actes des Apôtres, où un pasteur, un ancien, même un grand homme comme Paul s'arrête, réunit les collèges pastoraux et rend ses comptes. Et rend ses comptes. Donc, il n'y a pas de one-man show, soyons clairs. À l'Église, on fonctionne en collège pastoral justement parce qu'il n'y a pas de one-man show, soyons clairs. On doit rendre des comptes les uns aux autres. Tantôt, j'étais avec un des diacres de l'Église à Internet, j'étais avec le frère Lionel. Et comme hier, à cause de certaines situations, je ne pouvais être à l'église, le frère Lionel m'a rendu un peu de compte. Il y a quelqu'un qui est arrivé et il a commencé à m'expliquer. Je sais déjà. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris un frère à part. Le frère Gilles l'ont pris, et j'ai regardé qu'est-ce qui s'était passé. Et il m'a dit, une telle est venue, elle a amené des gens, ils ont mis le nom pour le baptême. Puis ainsi de suite. On a tous des comptes à rendre. Le frère Lionel m'a dit un peu ce qui s'était passé. Moi, je lui ai dit un peu des choses qui allaient venir, personnes que j'ai rencontrées. Pourquoi? Parce qu'on a tous des comptes à rendre. Dans une église, c'est pas un pasteur, puis juste les brebis en dessous, mais il y a une ordre à respecter. Une fois par année, on fait une réunion financière, qu'on appelle l'église, où on rend compte de l'administration et on donne des projets pour la nouvelle année. Mais avant ça, nous, on s'est rencontrés en collège pastoral. Pendant l'année, on a quelques rencontres où chacun va donner sur des choses différentes ou sur des litiges qu'on rencontre ou sur des points de doctrine ou sur des situations qui arrivent. Chacun va regarder, on va prendre le temps de prier ensemble. Quelquefois même, on a été chacun de nos côtés prier. On a fait une prochaine réunion pour voir ce qui va en sortir. Donc, Paul, ici, se rend chez Jacques avec quelques-uns de ses collaborateurs, tous les anciens s'y réunissent La parole de Dieu nous dit au verset 9, « Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, car tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Il faut vous retenir ça ici, aux coutumes. « Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, regardez la distinction qu'ils vont faire là. Il dit, en tant que juif, voilà la façon de fonctionner. C'est pour ça qu'il y a des églises, même aujourd'hui, et j'ai rien contre, qu'il y a des églises messianiques. Mais quand il y a des non-juifs dans les églises messianiques, ça fait un gros point d'interrogation dans ma tête. OK? Soyons clairs. Je respecte ça, là, et je ne porte aucun jugement, mais j'ai un questionnement, là. Si un Québécois comme moi se retrouve dans une église messianique, même s'ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, le monde est divisé en trois, que ça nous plaise ou non. Je suis en train de lire un bon livre de théologie qui s'appelle « L'homme face à son avenir » et le monsieur fait bien la distinction, c'est une bonne brique, là, je suis en train de lire, fait bien la distinction de certaines choses, dont Israël, le mode de fonctionnement que Dieu a avec Israël, le mode de fonctionnement que Dieu a avec l'Église et le mode de fonctionnement que Dieu a avec le monde. Parce que c'est trois groupes de personnes qui ont une mission particulière et ces trois groupes de personnes, soyons clairs, qui ne sont pas au même niveau quant à la réponse à l'appel. Les païens n'ayant pas répondu, nous ayant répondu en tant qu'entité de l'Église, c'est-à-dire on était hantés sur l'olivier franc, nous qui est l'olivier sauvage, et Israël, lui, comme Paul dit dans Corinthiens, son propre olivier, soyons clairs. C'est pour cela que je vous dis, regardez la distinction qui se fait ici. Les apôtres qui sont réunis, c'est genre, écoutent le compte-rendu de Paul et vont dire à Paul, « OK, on regarde ce que tu as fait chez les païens, mais toi, tu es juif. » Et tous ont entendu dire que tu dis aux autres juifs, que tu dis aux autres juifs, de ne pas respecter la loi de Moïse, les coutumes, et ainsi de suite. Quand on parle de loi de Moïse, on n'est pas en train de parler des sacrifices. D'ailleurs, si vous regardez ici, c'est un vœu dont ils vont parler, le vœu de Nazaria dont ils vont parler. On a 4 hommes ici qui ont fait un vœu. Et ils vont parler à Paul au niveau des Juifs. Mais au verset 25, ils vont dire « à l'égard des païens qui ont cru ». Nous avons décidé, vous rappelez-vous, ils ont envoyé une lettre, là, ils ont dit « cru bon Saint-Esprit et à nous, là, ce qu'on avait pris », où ils vont dire ici, « nous avons décidé, nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, du péché, soyons clairs. » Là. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux sur la fin des 7 jours. Donc là, je divise les choses, je les ai divisées en 3, si vous avez remarqué. Paul qui rend ses comptes, eux qui écoutent ce qui se fait chez les païens, ensuite de ça, qui vont conseiller Paul quant aux Juifs, parce que Paul est à Jérusalem et l'Église est exclusivement juive. Donc, les Juifs vont apprendre que Paul est arrivé et c'est ce qu'ils vont expliquer à Paul. Cela va mener à l'arrestation de Paul. Et beaucoup d'étudiants bibliques disent « Et Jacques puis les autres disciples étaient dans le champ, ils ont donné un mauvais conseil à Paul, parce que c'est comme ça que Paul se fait coincer, c'est comme ça que Paul se fait arrêter. » Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que Paul se fait coincer. C'est pas comme ça. C'est le moyen par lequel Dieu amène Paul jusqu'à Rome. Si Paul n'aurait pas fait cela, puis que les Juifs auraient appris que Paul était à Jérusalem et qu'il aurait gardé, et vous allez voir que plus tard, ils vont faire un complot pour le tuer, peut-être qu'il l'aurait tué. Peut-être qu'il l'aurait tué. On va voir quand on va arriver lors du complot que des gens veulent tuer Paul. Donc, ce qu'on a regardé à venir jusqu'à date, c'est que les Juifs acceptent ce que Paul fait chez les païens, mais ils vont lui demander d'aller à Jérusalem avant d'aller dans le temple, avant que les autres apprennent que Paul est de retour, ils vont lui dire quoi? Ils vont dire, il y a un bruit qui court. Il y a un bruit qui court, et le bruit qui court, c'est que tu dis aux Juifs, que tu dis aux Juifs de ne pas respecter les coutumes de la loi de Moïse. Et je ne vous parle pas de la loi du sacrifice. Comme tel. Et je vais mettre un petit emphase sur les coutumes. Parce que les coutumes étaient importantes dans ce temps-là, les différentes ablutions, en tout cas. Plusieurs choses étaient importantes. Et ils vont dire à Paul, fais ceci. On a quatre hommes qui ont fait un vœu. Et là, ils vont lui donner un modus à faire. Verset 27. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en disant, « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi, contre le lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Ce verset-là, 28, nous donne les quatre accusations qui sont portées contre Paul, dont je vais vous détailler un peu tantôt. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse, c'est le même Trophime qui a été laissé malade lors d'un autre voyage à Milet, si vous vous rappelez bien, où Paul va parler dans une de ces épîtres-là. Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes, comme la prophétie lui avait donné. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener à la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir ». Donc, la première partie que je vous ai expliquée où l'Église reçoit Paul chaleureusement, où Paul rend ses comptes, va lui donner un conseil. Quatre hommes ont fait le vœu de Nazaréa, comme je vous ai expliqué. Je vous explique rapidement, le vœu de Nazaréa consistait à se purifier par la prière, à apporter une offrande à Dieu, ainsi qu'à se raser la tête. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait le vœu de Nazaréa, je suis chauve, c'est autre chose. Et ces gens-là posaient un geste, se laissaient croître les cheveux. Ensuite de ça, quand arrivait le temps qui était généralement, il y a des variantes dans l'interprétation, là, entre 80 et 120 jours, là, mais on se rasait la tête, on prenait les cheveux, on les brûlait, et ces hommes-là faisaient un vœu. Généralement, ça se tenait d'alcool pendant, mettons, le vœu de Nazaréa, qui pouvait être un an, deux ans, trois ans, et aussi faisait des vœux de piété. Et Paul devait, pour montrer, c'était une coutume, payer pour leur purification. Paul a accepté, parce que ce n'était pas un compromis avec sa foi, mais c'était comme Paul était juif, s'adressait à des juifs, rentrait dans des us et coutumes, rentrait aussi dans une forme de la loi du Nazaréat, dont les juifs avaient ajouté, mais là, je ne veux pas entrer dans les détails. Soyons clairs, Paul va obéir à ce que Jacques lui demande, et ce Jacques-là, qui était un ancien de l'Église à Jérusalem, je vous dirais le principal ancien, n'est pas naturellement le Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, qu'on trouve dans la liste des apôtres, dans Matthieu 1,13, parce que ce Jacques-là a été passé au fil de l'épée dans Actes chapitre 12, verset 2. C'est plus le Jacques ici qu'on trouve, le Jacques, le frère du Seigneur, qui s'est converti après la mort, la résurrection du Seigneur. Donc, le dernier jour est arrivé, Paul se rend au temple pour la purification, terminé, si vous voulez, la coutume, et les Juifs le voient là et croient, supposent. Et c'est souvent ce qui arrive. Souvent, il y a des pasteurs qui sont victimes de ça. Les gens croient, supposent que. Paul est en train d'être lynché sur la place publique. Les Juifs vont l'accuser principalement de quatre actions, comme je vous ai dit, qui était au verset 28. On va les prendre sans s'y arrêter trop longtemps. De quoi ils vont l'accuser? Voici, verset 28, l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple. Donc, il l'accuse premièrement de trahir son peuple. Le vœu de Nazaréa se voulait, de la part de Paul, de montrer à son peuple qu'il ne les trahissait pas. Okay? Mais eux autres l'accusent de trahir le peuple. Deux, de proclamer que la loi de Moïse n'avait pas à être gardée. Toujours dans le verset 28, contre la loi, toujours la partie B du verset 28, contre la loi, contre ce lieu. Troisièmement, Paul est accusé de prêcher que les chrétiens n'avaient pas à observer les cérémonies du temple. C'est contre ce lieu. Non pas contre le temple, mais ce qu'on pratique dans ce lieu. Il a même introduit des Grecs, partie du verset 28, dans le temple et a profané ce Saint-Lieu. C'est la quatrième chose. Il est accusé d'avoir fait entrer des Grecs dans le temple. Cette dernière accusation est basée non sur un fait, non sur une preuve, mais sur un oui-dire, sur une pensée. Quand je vous dis, souvent, on accuse des hommes de Dieu de des choses parce qu'on pense que. On pense que ou on pense que. Je vous donne un exemple. Il y a eu un temps où je travaillais avec une sœur un peu plus proche. Aujourd'hui, elle n'est plus à l'église, mais je travaillais avec elle de façon un peu plus étroite. Et comme je travaillais à l'extérieur aussi, je n'étais pas pensionné dans ce temps-là. Donc, j'avais peu de temps pour l'étude, pour écrire. Et ce que je suis en train de vous enseigner là, je l'ai commencé dans le temps avec cette dame-là. Et quelquefois, on devait travailler très, très tard. Et quand elle arrivait chez moi pour travailler, et mon épouse était là avec les enfants, et je vivais dans plus petit. Je n'étais pas sur deux étages, mais sur un étage seulement. Et on devait travailler à la table de la cuisine. Donc, elle arrivait tout de suite après le souper. Mais mes enfants étaient encore debout. Mes enfants, même s'ils jouaient dans leur chambre, faisaient du bruit. Et ainsi de suite, il y avait du va-et-vient dans la maison. Puis à un moment donné, elle me dit, André, elle dit, vu que je suis une femme seule, elle dit, on ne pourra pas travailler chez moi. Elle dit, ça serait peut-être plus facile pour se concentrer, plus facile. Tu devrais peut-être parler avec ton épouse, et ainsi de suite. Et je lui ai répondu, non, on ne peut pas faire cela. Elle dit, pourquoi? Elle n'avait pas vu quelque chose que moi, je prenais bien garde. J'ai dit, parce que tu es une femme, puis je suis un homme, et tu vis seul. Et j'ai dit, troisièmement, tu n'as pas de mauvaise intention, moi non plus, mais je te donne un exemple. Comme on finit des fois au-delà de 23h30, des fois on s'est rendu jusqu'à 1h du matin à travailler, parce qu'on a juste les soirées pour travailler. Quelques fois, je n'ai pas beaucoup de soirées parce que je fais des visites. Je dis, donc, des fois, on travaille. Mais que je rencontre monsieur, madame, XY, le frère, la sœur, une telle, qui me voit sortir de chez toi à 1h du matin. Qu'est-ce que cette personne-là va penser? Je ne peux pas te le dire. Mais il y a de quoi de certain. Et je dis, c'est qu'un témoignage qui prend des dizaines d'années à bâtir, on ne le laissera pas démolir en 2-3 minutes. Peut-être que la personne va dire, ah ben oui, il est en train de travailler. Travaille fort. Peut-être qu'elle va penser toutes sortes de choses, je ne sais pas moi. Tout ce que je sais, je ne donnerai aucun avantage à l'ennemi à ce niveau-là. Et Paul se fait accuser sur un oui-dire. Et on dit qu'il a rentré un grec dans le temple. Et là, on s'apprête probablement à le lyncher. Quand le tribun va arriver, va le prendre, va le lier, va l'enchaîner entre deux soldats. Puis il va dire de le conduire à la forteresse parce qu'il y a un tumulte. C'est le tribun, d'ailleurs, Claude Lysias, qu'on va voir plus tard. C'est lui. Là, on nous dit que c'est le tribun, mais après ça, on va voir qui il est. Paul est arrêté, enchaîné. Versets 37 à 40. Je vais avoir le temps de le faire. Et ensuite de ça, on va regarder le discours de Paul la semaine prochaine. Sa défense devant le peuple. On va s'arrêter là après, puis on va regarder sa défense devant le peuple. Verset 37 du chapitre 21. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose? » Le tribun répondit, « C'est le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brillants. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Et on va arrêter à dit tantôt pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va regarder la teneur du discours de l'apôtre. Là, on a regardé quoi? On a regardé la progression de Paul. Paul qui s'en vient, sachant qu'il va être victime d'une persécution. Paul, averti par les frères, Paul arrive à Jérusalem. Paul va devant le collège pastoral, rend ses comptes. Eux disent, les gens vont apprendre que tu es ici, Paul. Il y a des bruits qui courent sur toi. Voici comment on va faire taire ça. Tu vas prendre 4 hommes, ce qu'on a parlé tantôt, le vœu de Nazaréa. Paul le fait et Paul tombe sous la coupe de 4 accusations, comme on a vu, c'est-à-dire celle de trahir son peuple. Les Juifs vont exciter la foule, comme ça s'est fait à d'autres endroits, si vous vous rappelez bien. Les Juifs excitent la foule, vont dire que Paul trahit son peuple, vont dire que Paul dit que personne n'a besoin de garder la loi de Moïse, vont dire que Paul prêche de ne pas observer les traditions, les cérémonies du temple, au verset 28 qu'on a vu tantôt, et accusation encore plus grave, qui mérite la mort, d'avoir introduit les Grecs dans le temple. Paul est arrêté et Paul est amené à la forteresse. Lorsque Paul arrive sur les degrés, ou ce qu'on appellerait les paliers ou les étages. Ça ne me donne rien de vous donner là, l'archéologie de cela, mais même les forteresses, il y en a encore des traces, la forteresse d'Antonia, là, et les forteresses, c'était des tours gardées et il y avait des gens en poste à des degrés différents pour avoir une vue claire. Paul va arriver sur les degrés à un moment donné et va dire au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose? » Et il va lui parler non pas en hébreu, mais en grec. Et le tribun va être surpris. Il va dire, « Tu sais le grec? » Naturellement, Paul était un homme de lettres. Le minimum, Paul savait l'hébreu, le grec et l'araméen, soyons clairs. Probablement plus que ça. Mais il va dire, « T'es donc pas... » Et ici, on pourra trouver des un peu de preuves historiques. « T'es donc pas ce brigand, cet Égyptien-là, qui a pris 4 000 hommes de... peu fréquentable, puis qu'il fait des pillages, puis après ça, il s'enfuit dans le désert. Peut-être que le tribun a été déçu, parce qu'il pensait peut-être avoir mis la main sur cet homme-là. Et Paul va donner un peu ses origines ici. Paul va dire, « Je suis juif, verset 39, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie. Citoyen d'une ville qui n'est pas sans ou de moindre importance. » Regardant cela, le tribun, ne pensant que Paul n'était que juif et que son lieu d'habitation n'était que la Cilicie, mais qu'il n'y était pas probablement tout simplement installé, il va lui donner la permission de parler. Et ça va créer un tumulte incroyable. On va le voir la semaine prochaine, un fort tumulte. Le tribun ne comprendra pas vraiment ce qui se passe parce que naturellement, ne connaissant pas les us coutumes du peuple juif et ainsi de suite, comprendra pas. Et même, vous allez voir plus tard, Paul se retrouve devant le Sanhédrin et il ne comprend pas plus, même s'il est là, le tribun, qu'est-ce qui va se passer dans le Sanhédrin. Et la parole de Dieu nous dit au verset 40, « Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. » Paul va donner un message. Dans un moment difficile, Paul va donner un message. C'est avec ça que je vais clore ce soir. Paul est lié de chaînes, mais la parole de Dieu n'est pas liée. On est en temps de pandémie. C'est difficile. Le masque, ce n'est pas facile. Les gens me disent, non, je ne vais pas à l'église avec le masque, ça fait trop chaud. C'est comme si tu me dirais, je n'irai plus faire mon épicerie. Parce qu'avec le masque, c'est trop chaud, je vais jeûner tout l'été. Je ne crois pas. Je crois que tout le monde va aller s'acheter du lait et du pain. Soyons clairs. Cette partie-là n'était pas privée. Soyons bien, bien clairs. Paul, parlant en langue hébraïque, dit, et Paul va prendre une défense vigoureuse, va donner le message, même dans un temps difficile, même enchaîné. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Paul saisit une occasion. Il va le faire plus tard dans le Sanhédrin en y ajoutant un ingrédient de division entre les pharisiens et les sadducéens, soyons clairs. Donc, je vais arrêter ici. Et la semaine prochaine, on va regarder qu'est-ce qu'il a dit, Paul. Donc, on a vu le cheminement à partir de Milet jusqu'à Jérusalem. Paul était averti. Notre Dieu prend bien soin de nous. Il nous donne les éléments concordants à son plan. Quelquefois, il ne donne pas tous les éléments, mais assez pour qu'on comprenne sa volonté. Et on l'a vu ici. Assez pour qu'on puisse obéir à sa volonté, même si on ne comprend pas tout. Et la révélation de Dieu va croissant. Ceci étant dit, je prie et lundi prochain, on reprend avec le discours que Paul va adresser au peuple. Seigneur, merci, Seigneur, du privilège que j'ai eu de partager ta parole ce soir. Du privilège que j'ai eu avec ton peuple, Seigneur, de regarder les Écritures. Fais bien germer en nous, Seigneur, la parole. Seigneur, amène-nous, fais de nous des hommes, des femmes matures, mûres dans le Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des cœurs humbles, doux, Seigneur, qui sachant ta volonté, que même si cette volonté-là, des fois, est difficile, qu'on soit des hommes et des femmes sachant obéir. Sachant obéir à toi, Seigneur. Ne regardant ni aux circonstances de nos vies ou aux difficultés, Seigneur, mais regardant à toi, qui est le chef et le consommateur de la foi, Seigneur. Donc, Seigneur, qu'on soit bien ancré dans ta parole, afin, Seigneur, que ta parole puisse porter du fruit en nous et que ce fruit puisse jaillir et sur notre Église et sur le monde, Seigneur, afin d'amener, Seigneur, des hommes, des femmes à la connaissance du salut, à la connaissance aussi plus profonde de ta parole. Je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et la semaine prochaine, on fait suite au message de Paul. Soyez bénis. Ouf.
Téléphone pendant que tu pêchais.
Oui. Pourquoi?